Alors, bienvenue dans un nouveau podcast des Voix d'Altaride. Ce soir, on est avec Thomas Munier qui nous fait le plaisir de nous apporter un sujet de discussion absolument passionnant. Donc, je vais te laisser la parole, Thomas. Je pense que nos auditeurs te connaissent, on t'a cité suffisamment pour qu'ils connaissent tes jeux. Peut-être que tu peux juste nous rappeler sur quel jeu tu travailles en ce moment, qu'est-ce que tu viens de sortir, etc.
Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Alors ouais, je refais très rapidement la présentation. Alors le dernier jeu que je viens de sortir s'appelle Odyssea. Donc c'est un jeu où on refait l'Odyssée, mais décalé en fait dans l'univers forestier de Millevaux, quoi. Et donc avec c'est une aventure tragique où il va falloir se battre contre son destin et peut-être réussir à rentrer à Ithaque contre vents, dieux et marées.
Odyssée, on en avait parlé, notamment puisque Sandra avait participé à une partie et on avait évoqué la session en table ouverte que tu avais fait aux Utopiales, je crois.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Ok, très bien. De quoi veux-tu nous parler ce soir, donc, Thomas ?
Donc là, je suis venu avec un sujet qui vient en fait de discussions que j'ai pu avoir avec Brand, notamment. Je sais que c'est un sujet, je pense, qui tient vachement à cœur à Globo. Je pense qu'on l'aurait eu à nos côtés, on se serait bien amusé.
Malheureusement, pas pour le moment. Voilà. Mais peut-être qu'on pourra de toute façon faire une suite un de ces jours.
Spécial dédicace à Globo.
Spécial dédicace. Et à Brand, hein, qui a participé déjà au podcast et qu'on salue.
Il s'agit de la réception. Enfin, réception-immersion.
Réception-immersion. Je pense qu'avant tout, il va falloir un peu définir les termes pour pouvoir attaquer le sujet.
Alors, du coup, je vais recommencer par définir un troisième terme. Qui n'est pas le sujet, mais qui va être le creux du sujet, on va dire, c'est l'émission. L'émission, c'est l'ensemble des discours en jeu de rôle. Donc ça va englober le roleplay, le discours mécanique du genre bah, « lance un des 20 »,« j'ai tant de classes d'armure », ainsi de suite, quoi, « je fais un sex move ». Et ce qui va englober aussi tous les discours méta, donc l'humour, les commentaires sur l'aventure, le « passe-moi les chips » et compagnie, quoi.
Uniquement les discours verbaux dans ton émission ?
Bah, tu vas englober les discours non verbaux, donc gestuels, emploi de la musique, emploi des images.
Ok.
Donc c'est on émet, quoi, dans le sens un peu d'un média, quoi, hein, tout simplement. Donc la réception, bah, finalement, c'est l'inverse de l'émission. C'est on ne parle pas, on écoute, on ne montre pas, on voit, ou on visualise, en l'occurrence, dans le jeu de rôle. On n'exprime pas, on ressent. Donc voilà, il y a une notion de cinq sens, on va dire. Il y a une notion de ressenti, d'émotion, je pense, qui est aussi contenue dans la notion de réception, quoi.
Il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est une chose dont tu veux parler, mais dans la notion de réception, il y a aussi une notion d'interprétation. Des informations que tu reçois, justement. Est-ce que c'est le stade suivant, peut-être ?
Oui. Enfin, moi, je l'engloberais dans la réception, oui.
Entendu.
Alors, ce serait à débattre, mais ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, oui. Tout à fait. On va en reparler tout à l'heure. Et du coup, l'immersion. Alors l'immersion, c'est un sujet assez casse-gueule. Il y a quand même des théoriciens comme Frédéric Sintès qui ont quasiment abdiqué sur le fait de. Enfin, des gens comme Fabien Invine et Frédéric Sintès disent on s'abstient de définir l'immersion parce que c'est un sujet qui est trop. Parce que c'est trop sujet à débat. Eh bien, nous, on va prendre le risque de traiter
absolument
le sujet. Voilà. Et l'immersion, je vais la définir comme un état optimum de réception.
Ok. Alors, c'est intéressant parce que tu parles d'état optimum, pas maximum. J'imagine que c'est un choix conscient, ça.
Oui, parce qu'en fait, notamment, ça englobe finalement une réception qui est concentrée sur l'aventure et qui, du coup, va omettre notamment la vie réelle, quoi, en fait. Donc effectivement, c'est une la réception. Alors après, on pourrait en débattre d'ailleurs. On va en débattre parce qu'il y a une immersion qui inclut la vie réelle. On va aborder ça très rapidement dans les quatre formes d'immersion.
Alors, tu parles de quatre formes d'immersion. Moi, je sais que quand tu m'as annoncé ce sujet tout à l'heure, j'ai réécouté une conférence d'Olivier Caïra à Orchidée de 2013, je crois, dans lequel il parle de l'immersion en jeu de rôle. Et il parle notamment d'un article dont j'ai... je n'ai pas noté le nom, donc je l'ai oublié, mais je le retrouverai dans les notes du podcast. Un article d'un théoricien du jeu vidéo et qui parle de six formes de... Alors, il parle d'immersion, il parle d'engagement avec le média. Et il parle de 6 formes différentes. Toi, tu en gardes 4. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu te bases sur ta propre expérience pour définir ces 4 immersions, ou c'est quelque chose que tu as pioché dans un corpus théorique général?
Bah en fait, là, si tu veux, on va faire référence au podcast qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, podcast enregistré chez Ludologie avec Manuel Bédouel et puis Adrien.
D'ailleurs, où... je t'interromps, mais si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, vous arrêtez l'écoute de celui-là, vous allez l'écouter et vous revenez ensuite.
Ça pourrait effectivement vous donner des clés de compréhension pour ce qui va suivre, puisque dans ce podcast, j'abordais donc une hypothèse personnelle, bon, m'appuyant sur des travaux d'autres personnes hein, quand même, mais qui avait 4 atomes de jeu, qui étaient le jeu tactique, le jeu moral, le jeu esthétique et le jeu social. Et donc du coup, en fait, j'en déduis 4 formes d'immersion qui sont corrélées à ces formes de jeu. Donc l'immersion dans le jeu tactique, moi j'appelle ça le flow.
Oui.
C'est qu'en fait, quand tu es concentré sur l'espèce de courant continu de problèmes qui arrivent sur toi et que tu dois gérer, et quand ça mobilise en fait complètement ta capacité d'attention, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le jeu vidéo hein, notamment, hein, eh bien tu as cet état de flow.
Ok, oui, effectivement, le flow, c'est un concept qu'on peut retrouver en jeu vidéo, dont on a déjà pas mal entendu parler. Dans d'autres podcasts, je crois que c'est La Cellule qui avait parlé du flow pas mal dans des émissions sur le... je sais plus si c'est dans une émission sur l'immersion, mais...
Dans Ludologie, ils en parlent aussi pas
mal. Dans Ludologie aussi, Donc c'est un concept que tu reprends ici pour l'immersion tactique. L'immersion tactique, je crois que Globo nous en avait déjà parlé justement dans le podcast.
C'est possible. Ce que j'appelle l'immersion morale... En fait, là, je récupère un terme du GN, c'est la pervasivité ou l'effet bleed que tu vas rencontrer aussi en jeu vidéo sous le terme de contagion. Et en fait, c'est quand tu es soumis non pas à un flot continu de problèmes techniques, mais à un flot continu de dilemmes moraux et de situations qui t'amènent à te positionner moralement et à te... Et en fait, c'est quand il y a une contagion, on va dire, des émotions que pourrait ressentir le personnage qui va contaminer en fait tes émotions en tant que personne.
Et pour toi, c'est caractéristique de l'atome moral du jeu ?
Pour moi, c'est, on va dire que c'est le... je pense qu'on pourrait débattre sur est-ce que vraiment ces immersions, elles sont toujours congruentes des formes de jeu auxquelles je les colle. On va dire que c'est des synergies.
D'accord.
C'est-à-dire que le flow, pour moi, je le vois surtout dans du jeu tactique. À un moment où le jeu est très tactique, il y a cette probabilité de rentrer en flow. Et donc pour moi, à un moment où le jeu est très moral, il y a effectivement cette probabilité d'entrer en bleed.
Oui, parce que le bleed, moi, c'est un concept que j'ai entendu les premières fois, non pas en GN, mais à propos du jeu de rôle et du freeform, parce que je crois que c'est Emily Kerbos qui l'a détaillé, en fait, ce concept de bleed.
Okay. Il y a aussi un article sur ElectroGN, hein, sur le
bleed. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, c'est un concept qui, d'après ce que j'avais entendu, était parti des travaux d'Emily Kerbos théorique, et qui a été saisi, enfin, dont les GNistes se sont saisis, alors que les rôlistes s'en sont beaucoup moins saisis. Et ça fait partie des éléments, et c'est une toute petite aparté, qui me fait dire que aujourd'hui, en théorie rôliste, on ferait bien d'aller jeter un œil du côté du GN, parce que les GNistes sont souvent beaucoup, beaucoup plus avancés sur un certain nombre de concepts que les rôlistes.
Et peut-être notamment sur la notion de réception et d'immersion.
Ah, c'est bien possible, oui.
Et je vais vous donner un exemple en fait de bleed maximal qui pourra vous orienter dans la compréhension de ce que c'est. C'est notamment si on t'amène à te jouer toi-même. Donc moi j'ai cité un exemple personnel. L'AMJ en fait me dit tu te joues toi-même dans ton lycée, donc c'était à l'époque où j'étais encore lycéen quoi, hein. Et donc on me fait rencontrer des figurants qui sont en fait des personnes de ma vie quotidienne de lycéen, donc il y a vraiment un frottement très fort en fait entre la réalité et l'aventure quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je me fais capturer par des méchants, des inconnus et tout, qui me crucifient à un mur. Et là, à ce moment-là, en fait, La sensation de bleed a été très forte, quoi. C'est-à-dire que les émotions de détresse du personnage, je les ai vraiment, je me suis prise en pleine gueule, en quelque sorte, parce qu'il y avait eu toute cette identification très forte qui avait été faite auparavant. Donc là, ce qui se passe, du coup, c'est qu'un état de bleed trop fort, en fait, peut amener ce que j'appelle un rage quit, à défaut d'un terme plus approprié. C'est que en fait l'identification à la situation, aux dilemmes moraux ou à la souffrance du personnage, c'est-à-dire qu'on souffre dans le personnage, ben, peut amener en fait que le jeu devienne insupportable, qu'il cesse d'être un jeu parce que justement il envahit trop la réalité pour rester un jeu. Et du coup moi dans le cas de cette partie-là, en fait suite à cette péripétie, j'avais mis fin en fait à la partie parce que je pouvais guère en supporter davantage.
Oui, t'es entré en résonance un petit peu avec le personnage à ce niveau-là et t'as probablement une amplification et un jeu de retour un peu comme à Larsen entre le personnage et le joueur qui va finir par amplifier le signal et rendre la chose insupportable.
Ouais, tout à fait. Alors, on parlait aussi en préparation d'une forme atténuée. C'est quand on te fait jouer dans ta propre ville. On joue dans ta ville dans une semaine. Là, ça crée effectivement un effet de réel qui est important et qui va faciliter, je pense, l'identification au personnage, parce que le personnage n'est pas toi, mais il évolue dans des décors qui sont très familiers. Il va dans des lieux que tu fréquentes souvent, parce que généralement quand on dit on joue dans ta ville, en plus on va vraiment jouer en plus dans des endroits qui nous sont familiers, quoi. On va jouer dans les bars qu'on fréquente, on va enfin bref. Et du coup, la conclusion qu'on avait eue par rapport à ça, c'est que l'immersion, elle est due au fait qu'on reçoit une grande quantité d'informations concordantes.
Oui.
Et le fait de dire, bah tiens, on joue dans ta ville, bah on va dans un bar, on va dans quel bar? Bah là, en fait, vous allez dans le bar où on se réunit toutes les semaines. Donc là, l'avantage, c'est qu'en une phrase, tu viens d'envoyer plein d'informations, parce que la personne qui joue, eh ben, elle va visualiser le bar parce qu'elle le connaît très bien, en fait.
Oui, en fait, tu facilites énormément la construction de cet espace fictionnel commun autour de la table. Je ne sais pas si on l'appelle le maelstrom ou pas, de toute façon, je crois qu'on en parlera un peu plus tard. Mais cet espace fictionnel, il est effectivement, quand tu as une concordance des informations, comme tu le disais, d'une part, les informations qui sont fournies par la personne qui décrit la situation, mais aussi fournies par chacun des joueurs qui a l'habitude de se retrouver à cet endroit-là, c'est effectivement très puissant. Moi, je sais que des effets d'amplification d'immersion comme ça, j'en ai eu, notamment en lisant des romans qui se passent dans les quartiers où j'ai grandi. Et c'est tout de suite, il y a eu un attrait pour le roman, une plongée à l'intérieur du roman qui était beaucoup beaucoup plus importante. Et évidemment, ça arrive aussi en jeu de rôle. Je sais pas, enfin tous les, pour moi, j'ai l'impression que tous les joueurs qui ont joué un jour à Vampire, au jeu de la gamme du Monde des Ténèbres, ont organisé des parties vraiment dans les endroits qu'ils connaissent, quoi.
Et d'ailleurs, pour la notion de contagion, tu vois, dans la cellule, quand on
Oui.
joue dans sa ville, il parle de réenchanter le monde.
Absolument, j'y
C'est-à-dire qu'en
pensais tout
fait,
à l'heure.
il est justement, du coup, l'aventure va envahir le monde réel quelque part. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le terme de pervasivité, parce que je trouve qu'il m'a, enfin, ça me, c'est un peu dans la sonorité, on voit bien le glissement en fait d'un monde vers l'autre, quoi.
Et j'ai l'impression qu'il englobe plus que les simples émotions.
Oui, mais par contre, on renforce l'effet bleed, par exemple, si non seulement tu joues dans ta propre ville, mais surtout les figurants que tu y croises, ce sont des personnes de ton quotidien, des personnes réelles, parce que du coup là, on n'a pas non seulement on a des informations qui sont factuelles, on joue dans ton bar, mais en plus, bah le mec qui tient le bar, c'est le barman que t'aimes bien et tout, la serveuse que tu connais bien. Comment ton prof de maths, voire même carrément aller, tu rencontres ton propre père dans la rue, choses comme ça, ça crée un effet d'identification qui peut être très fort, quoi.
Le propre père, je pense que là, on s'approcherait peut-être un peu trop
De la fameuse limite
la fameuse limite
du
dont on
rage quit,
parlait.
quoi. Mais le
Ouais.
jeu moral, de toute façon, est souvent en flirt avec cette limite. Donc je parlais de quantité d'informations concordantes. Oui. Et il y a parfois, donc il ne suffit pas de bombarder les joueuses d'informations pour faciliter leur immersion. Il faut que les informations, enfin c'est mieux si les informations sont concordantes. Je prends un exemple, bon c'est plutôt un exemple de flow, mais passons. On joue à Pathfinder, on a les battle maps, on a les figurines, on a plein de visuels, on a les cartes de sorts, on a les feuilles de perso super détaillées, on a plein, le MJ est vraiment en verve dans ses dessins. Les joueurs en remettent une couche, on est vraiment, on visualise tout très bien, notamment le speed de l'action, quoi. Mais à côté de ça, le MJ a oublié d'arrêter la musique d'ambiance de tout à l'heure, la petite musique calme. Il serait mieux s'il mettait une musique speed, mais il a oublié de le faire. Et ben là, on a une information concordante qui peut nous casser en fait notre immersion.
Discordante, tu veux dire?
Discordante, une information discordante, tout à fait. Par exemple, on est censé jouer un combat qui se déroule très vite, mais pour des raisons mécaniques, le combat en lui-même, on le joue en 8 heures, quoi. Il y a cet effet-là dans Shadowrun, notamment, où le hacker, il est censé agir extrêmement vite, il a 15 actions par round, sauf que le problème, c'est que du coup, son round, il dure une heure, quoi. Donc cette sensation de vitesse, quelque part, est perdue, quoi.
Oui. On peut parler aussi d'un concept de latence, en fait, qui est dû au passage de la fiction à la mécanique.
On va en reparler, justement, parce qu'on va faire un peu discuter du méta.
Entendu.
Je vais repasser sur l'immersion esthétique. Alors, je ne suis pas... je suis pas encore mis d'accord avec moi-même sur le terme que je vais employer. Du coup, je vais en employer deux. Même trois, d'ailleurs. Le premier, c'est la fascination. Alors ça, je l'emprunte au terme rétention-fascination hein, que Fabien Ilvine emploie pour parler des jeux à secret, notamment, où on retient la révélation d'un secret suffisamment longtemps pour créer une envie, une attente. Et donc du coup, au moment où on révèle le secret, il est magnifié par cette attente, la révélation d'autant plus percutante que soit on a dû l'attendre, soit on a dû dépenser des ressources ou du temps de jeu ou des efforts pour l'obtenir, quoi. La fascination ou encore la transe ou encore ce que j'appelle l'effet waouh tout simplement, c'est quand tu crois ou tu consens à croire complètement à la réalité du monde virtuel qu'est l'aventure de jeu de rôle. C'est voilà, c'est quelque part c'est tu es dedans, c'est-à-dire que tu n'es plus dans ton salon, tu es dans le monde de Gloranta, tu es en train de faire des exploits et puis tout le décor des montagnes et des monstres autour prend vraiment vie sous tes yeux quoi. C'est comme si tu étais en train de jouer à l'Oculus Prime sauf que c'est en jeu de rôle quoi.
J'ai l'impression que c'est la définition en fait de l'immersion qu'on entend le plus souvent ça.
Ouais, je pense qu'effectivement, on parle très souvent de cette immersion esthétique.
Comment tu... Je réagis à la fascination et au jeu à secret. Comment tu places l'ironie dramatique dans ce cas-là? Quand le secret est connu des joueurs, mais pas des personnages, et que tu peux justement jouer avec ce concept-là.
L'ironie dramatique, pour moi, c'est un artefact de jeu moral.
D'accord.
Donc... pour le coup, je suis pas certain qu'elle soit tellement au service de la fascination.
Bah d'accord. Non, mais justement, pour moi, ça s'opposait à la fascination.
Ouais, ouais, voilà.
Justement.
Ouais, bon, on est bien d'accord.
Ok.
Et la dernière immersion, je vais l'appeler. Ah oui, alors pourquoi fascination et pourquoi trans? Je trouve que dans la fascination, il y a une notion de je consens à croire. Et dans la transe, il y a presque, on se rapproche plus du « je crois » en fait. Je crois au premier degré à l'aventure. Quoi. On est vraiment le moment où mon cerveau est piégé quoi, et je suis vraiment dans l'aventure. Quoi.
Et c'est un état qui, effectivement, n'est pas atteint souvent et serait assez fugace.
Ouais, et ce que j'appelle la fascination, je pense qu'elle peut être aussi... On peut être resté dans un état où on comprend très bien que c'est une aventure, que c'est pour de faux, mais on est dans la contemplation, en fait. On contemple l'aventure comme on contemplerait un tableau, ou comme on contemplerait un film. Là, je vais renvoyer au podcast, aux deux podcasts Jeu et Immersion, qui a été enregistré aux conférences du Stunfest, qui en parle, je trouve, pas mal de tout ce qui est contemplation, quoi. Et on va revenir d'ailleurs en détail vers la fin. pour moi, la contemplation, c'est une forme d'immersion esthétique. Quoi.
Oui, bah justement, j'allais l'aborder en complément de la fascination et de la transe, justement. Ouais.
Et la dernière immersion, c'est ce que j'appelle l'immersion sociale. Je l'appelle l'instant de grâce. Le terme, on pourrait en débattre.
Non, je t'écoute.
C'est quand... c'est le moment où, si tu veux, tu as l'impression d'être au diapason des autres joueurs. En fait, tu es immergé dans le bon moment comme dans une bonne conversation. Oh, on a eu une super bonne conversation. J'ai pas vu le temps passer. Quand ça fait 3 heures qu'on cause. Comment c'est possible ? Pour moi, c'est une forme d'immersion sociale. Tu es immergé en fait, dans le fait d'avoir une conversation et de raisonner, de bien raisonner avec les autres personnes à la table. Quoi. Le bon moment aussi.
Oui, et puis ce que tu décris, c'est effectivement des situations qu'on peut vivre où on a l'impression de pouvoir agir au diapason presque sans mots, simplement parce que chacun est immergé du coup dans la même situation, la même discussion, la même chose. Ouais.
Et du coup, ça m'amène à la notion d'harmonie.
Voilà, oui, tout à fait.
Quand je dis qu'un groupe de jeu s'harmonise, pour moi, c'est comme un groupe de jazz. C'est-à-dire que on n'a pas de partition, on a des instruments différents. Mais quand il y en a un qui commence à lancer quelque chose, les autres ils vont répondre avec leur instrument, ils vont tisser dessus, et il y a une troisième personne qui va enchaîner. On n'a pas besoin de se parler, de s'échanger des partitions. Peut-être qu'un regard suffit, peut-être que la gestualité, la corporalité suffit, la connivence en fait. Voilà, c'est ça, c'est quelque part l'instant de grâce, et c'est une forme de connivence aiguë. Et du coup, l'harmonie, ce que j'appelle l'harmonie, c'est une sorte de mix entre, quelque part, entre l'immersion sociale et l'immersion esthétique. Dans le sens où il y a une connivence dans le fait de créer de l'esthétique.
Tout à fait, oui. C'est probablement une des formes d'immersion que, pour ma part, j'ai connue le plus souvent.
On pourrait appeler ça une synchronisation aussi.
Oui, une synchronisation. Et à mon avis, c'est ce qui...
Ou un dialogue.
Oui. Quand on a évoqué un certain nombre de choses comme l'idée d'avoir un bon MJ autour d'une table, et que j'ai rétorqué dans ce podcast très souvent que, pour moi, il s'agissait vraiment d'une interaction entre joueurs et maître du jeu pour créer une bonne partie, je pense que ce terme d'harmonie que tu pointes ici est quelque chose de très très important, effectivement, qui participe de cette sensation-là à ce moment-là.
C'est des choses qu'on voit beaucoup dans les blogs de génie sur « je ne suis pas MJ, mais... » Alors, je ne suis pas certain qu'elle emploie elle-même le terme d'harmonie, mais quelque part, elle en parle, quoi.
De toute façon, elle nous fera bien un article sur le sujet, un de ces jours.
Ah bah, j'adorerais. Encore du boulot pour Eugénie. Elle doit nous remercier par avance.
C'est certain.
Je pense qu'on peut... D'ailleurs, on discutait avec Eugénie, j'ai interrogé justement sur les états d'immersion qu'elle pouvait connaître aux parties qu'on avait ensemble. Et en fait, on est arrivé à la conclusion qu'à mon avis, c'est possible d'être dans plusieurs immersions à la fois. Alors, je pense que par exemple, l'état de flow et l'état de bleed peuvent être assez congruents, peuvent se rencontrer en présence l'un de l'autre. Et de même que... La fascination et l'instant de grâce peuvent être aussi assez congruents. Alors, je suis loin de prétendre que les autres combinaisons sont impossibles, mais je pense que c'est les alliances qui me paraissent les plus fréquentes.
Du coup, je me pose la question, est-ce que, à ton avis, il y a des formes d'immersion qui sont incompatibles ?
Je pense pas. Après, il y a des choses...
Parce que le flow et l'immersion esthétique...
Testons des combinaisons. Le flow et l'immersion esthétique, c'est chaud. C'est chaud.
À moins d'être dans une partie descriptive...
Mais encore que, tu vois, par exemple, je prends des combats à Shadowrun. Ouais. Je trouve qu'il y a des moments, je parlais de la rapidité du hacker, qui est une espèce de vertige logique, hein, le fait que lui, il agisse 15 fois plus vite que les autres. Et puis même d'ailleurs tous, parce qu'il y a vraiment cette notion de rapidité dans Hacker, parce que même les mages, même les street samouraïs avec des réflexes câblés, il y a une notion de combat à haute fréquence qui dégage quand même une esthétique hyper forte, même si on est sur des combats ultra tactiques. Je trouve que, par exemple, dans un combat de Shadowrun bien mené, avec quand même une gestion du rythme qui soit correcte, hein, qui soit dense, sans pour autant bâcler l'aspect tactique. Je pense qu'on peut se retrouver avec un flow et une fascination en même temps.
Ouais, j'avais un exemple qui sort de Shadowrun, je pense à Pavillon Noir. Je ne sais pas si tu as déjà joué à Pavillon Noir ou tu as lu les règles.
Non, je te laisse nous éclairer.
Donc dans, alors bon, j'y ai joué très peu, hein, mais dans mon souvenir, le système d'escrime fait intervenir des choix dans les jets de dés, c'est-à-dire que tu jettes un certain nombre de dés, et puis selon les combinaisons que tu obtiens, tu vas pouvoir faire des manœuvres d'escrime différentes. Et je me souviens très bien que les rares fois où j'ai pu jouer à ce jeu, ça pouvait produire en tout cas des effets semblables de ce point de vue-là, parce que le système sur lequel on était concentré, donc pratiquement en état de flow pour pouvoir gérer le combat, résonnait vraiment avec l'esthétique qui naissait de la description des manœuvres qu'on allait faire.
Je crois aussi que c'est quelque chose que tu peux rencontrer en sport, en fait. Un beau combat d'escrime, tu vas être à la fois en flow parce que t'as l'enjeu physique, ton talent est mis, l'enjeu corporel qui est important, quoi. Et en même temps, t'as l'enjeu esthétique pour faire un peu d'escrime, parce que putain, qu'est-ce que c'est beau de participer à un combat d'escrime, quoi.
Mais est-ce qu'on s'oppose, on n'oppose pas dans ce cas-là, on sort peut-être du sujet, mais est-ce qu'on n'oppose pas dans ce cas-là le fait de jouer pour gagner, donc en appliquant la tactique, la stratégie au maximum pour gagner, et d'un autre côté, le beau geste, et que idéalement, quand les deux sont cumulés, c'est formidable, mais souvent l'un se fait au détriment de l'autre.
Ouais, c'est toujours la question de est-ce que le fair play est soluble dans le jeu tactique. Je vais éviter de donner une réponse maintenant. Je crois que ça dépend un peu des sensibilités aussi, quoi. Et je pense que ça va dépendre beaucoup des sensibilités, cette notion de connaître plusieurs immersions à la fois. Quelque part, je crois que ça dépend des cerveaux de chacun, quoi.
Oui, c'est très possible.
De ce qu'on est capable d'absorber à la fois sans être en dissonance, quoi.
Et j'ajouterais que c'est probablement aussi lié à l'expérience que tu as d'un... Pas ton expérience de joueur en général, mais l'expérience que tu as d'un jeu en particulier. À savoir, si tu es en train de jouer dans ta ville, comme tu disais tout à l'heure, avec un jeu que tu connais bien, pour lequel tu n'as bah, le système disparaît en fait puisqu'il est devenu instinctif, tu vas peut-être accéder plus facilement à certaines formes d'immersion et de mélange d'immersion que quelqu'un qui débuterait complètement et qui se débat un petit peu avec cette situation, quoi. Peut-être même on peut même, oui, je pense qu'on peut même aller jusque ton côté d'immersion sociale, d'harmonie. Quand tu as des gens qui jouent depuis très longtemps ensemble et des gens qui se découvrent, quelle que soit leur expérience précédente de jeu.
Ouais, tout à fait. Je voulais juste un dernier chose sur les quatre immersions, parce qu'il y a un article qui est très important de Frédéric Saint-Esse qui s'appelle Combativité et absorption, qui, à mon sens, mon interprétation personnelle, en fait définit les deux formes d'émission qu'on rencontre dans le jeu moral. Alors c'est ultra personnel, j'assume ça complètement. Et il y a une chose que je réfute dans l'article, c'est que Frédéric Saint-Esse dit que l'absorption, c'est sa définition de l'immersion. Et après, il définit l'absorption comme étant les moments où tu joues sans être attaché à la défense des intérêts de ton personnage. Notamment, tu vas jouer des scènes d'introspection, ou que tu vas jouer des scènes où tu expérimentes les conséquences de tes actions. Et en fait, je trouve que quand on lit sa description de l'absorption, moi j'y vois essentiellement des actes du personnage ou des pensées qui sont énoncées du personnage. En fait, moi j'y vois essentiellement de l'émission. Donc en fait, quelque part, je réfute l'article quand il associe dans son en-tête émission et absorption.
Effectivement, oui, c'est de toute façon les. Alors. En fait, j'ai l'impression que les termes d'émission et d'absorption sont déjà en dissonance. Et
Peut-être qu'il y a le choix du terme d'absorption. Mais en fait, si on veut, l'absorption, c'est une posture, c'est une façon d'émettre qui est là pour encourager l'entrée en bleed. C'est-à-dire que si tu joues des scènes d'introspection ou si tu expérimentes les conséquences des actes de ton personnage, eh bien, c'est quelque chose qui va renforcer ton identification au personnage. D'ailleurs, il appelle l'absorption jouer le personnage comme une seconde peau. Donc, en fait, c'est une forme d'émission qui est conçue pour faciliter ton entrée en bleed, pour augmenter la qualité de ta réception.
Effectivement, ça me fait penser à un certain nombre de choses que j'ai pu lire sur le blog de Génie, justement, où en jouant l'émotion, tu vas provoquer l'émotion.
En jouant l'émotion, tu vas provoquer l'émotion. Mais du coup, c'est important de bien quand même de voir le moment de dissociation, le moment de passage entre émission et réception.
Tout à fait. Tu émets vers toi, en quelque sorte, finalement, en absorption, si je comprends bien le...
Et ouais, c'est un peu comme si c'est presque un effet sonar, quoi. Un effet chauve-souris, quoi. D'ailleurs, c'est vrai que ouais, jouer les émotions, c'est une bonne façon de les provoquer. Ouais. Perception et Maelstrom.
Oh oh.
Attention. Je ne sais plus si c'est en préparation ou si c'est en intro. Tu nous avais parlé d'interprétation.
Oui, tout à fait. Oui.
En fait, la théorie du Maelstrom de Roerink Briand, elle nous enseigne quand même une chose qui est importante à retenir, c'est que aucune des personnes présentes à la table n'a la même perception de l'aventure.
Oui.
Pour une aventure, il y a autant de perceptions différentes que de joueuses. Donc déjà, je pense que c'est juste énoncer ce principe, je pense que c'est très important. L'exemple classique qu'il donne, c'est dans l'aventure, y a, le MJ dit il y a un chat. Eh bien, tout le monde va voir un chat différent, en fait. Il y en a qui va le voir tigré, il y en a qui va le voir blanc, il y en a qui va voir petit, l'autre va le voir gros. Et il y en a un qui aura peut-être même pas entendu là parce qu'il est parti aux toilettes et donc il n'est pas au courant qu'il y a un chat.
Alors, ça met le point sur moi, ce qui me pose le plus de problèmes sur le Maelstrom, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment pas spécifique du jeu de rôle. Mais, passons. Abordons ce que tu veux
en
dire.
En effet, mais c'est utile.
C'est très utile. C'est très, très utile.
En jeu de rôle.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Et on arrive à la notion d'interprétation. C'est-à-dire que comme on passe notre émission est dans le jeu de rôle est essentiellement basée sur le langage, eh bien entre l'émission langage et notre réception, il y a un filtre qui est le filtre de notre interprétation. L'exemple du chat, si je dis qu'il y a un chat, eh bien, chacun le voit différemment parce qu'il va filtrer avec son interprétation. Et je vais faire un tout petit parallèle avec une notion de biologie. En fait, quand notre vision, en fait, en réalité, notre rétine est un très mauvais outil d'optique. Il faut imaginer qu'en fait, on voit avec une très mauvaise résolution. Si on arrivait à recomposer une image à partir de notre rétine, ce serait tout pixelisé. Et c'est notre cerveau qui comble les blancs à partir, en fait, notamment de notre apprentissage. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce n'est pas le vrai monde. C'est notre idée qu'on se fait du monde.
Absolument, et si tu pousses la réflexion de ce point de vue-là un peu plus loin, ou en parallèle, tu peux en arriver aussi au fait que nous ne voyons pas chacun la même chose.
Voilà.
Ne serait-ce que parce que ce que j'appelle le bleu, pour toi, on l'appelle le bleu tous les deux parce qu'on a défini des objets comme étant bleus, mais on ne voit probablement pas du tout la même couleur.
Ah, effectivement, si on pouvait choisir dans un nuancier, on aurait quelque chose de différent. Et tu parlais en préparation
tout
de la
fait.
Différence entre description et évocation.
Oui.
Et par exemple, il y a une grande différence. Si je dis... Il y a deux différences. Si je dis... tu vois une femme qui est... qui a un visage très fin, des yeux très bleus, des cheveux blonds, et je dis comment, et qui ressemble à un top modèle. Et si je te dis c'est la plus belle femme que tu aies jamais vue, tu vas avoir une image mentale qui pourrait être soit concordante, soit au contraire diamétralement opposée, tout simplement parce que tes canons esthétiques de la beauté ils vont être différents des miens. Donc si je dis c'est la plus belle femme que tu aies jamais vue, eh bien, tu en aurais une réception différente. En plus, tu en aurais une réception différente si je te parle et que toi, tu es une personne qui aime les femmes, qui est attirée sexuellement par les femmes, et si je te parle et que tu es une personne qui est asexuelle ou qui est attirée par les hommes. Parce que, là, du coup, là, selon ton attirance sexuelle, selon le genre de la personne et toi, tu as ton rapport sexuel au genre, eh bien, tu auras une représentation différente, quoi. Moi, par exemple, je suis hétérosexuel. Si on me dit, tu vois le plus bel homme que tu as jamais vu, je pense que j'en aurais une vision spéciale que si j'étais homosexuel, j'aurais une vision différente.
C'est bien possible, mais il y a un point intéressant en prêtant à l'expérience. Tu me dis, tu vois une femme. J'ai une image vague qui commence à se former. Tu me dis, elle est blonde. Paf, bah, c'était pas ce que j'avais imaginé.
Elle n'arrête pas de se transformer.
Elle n'arrête pas de se transformer.
Tout à fait. Bon, voilà, c'est du pur maelstrom, mais je trouve que c'est un peu intéressant de mobiliser ça un petit peu. Et du coup, ça m'amène à une opposition entre deux axes émission-réception. Il y a le premier qui est, je pense, le plus fréquent en jeu de rôle, c'est le proposer-valider. Notamment qu'on voit beaucoup dans les jeux à narration partagée où en fait le qui a le dernier mot sur quoi c'est une notion un peu floue. Même si des fois les jeux en narration partagée précisent très bien, mais comme ça change à chaque fois comment on partage vraiment les responsabilités dans les jeux, notamment Forgéen, enfin tous les jeux un peu anarchistes, eh bien du coup on sait jamais trop bien quoi, qui est-ce qui a le droit de dire quoi et tout, et du coup c'est bah tiens, on dirait que t'es mon frère, est-ce que t'es d'accord? Ou je suis la personne la plus influente de la ville, me jeu, ça te va, ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire que ta proposition, c'est ta proposition, c'est un fait de Schrödinger, quoi. Tant qu'il n'a pas été validé, il existe et il n'existe pas à la fois. Et ça provoque notamment des latences importantes.
Oui, tout à fait. Ouais.
Hein, latences qui sont bénéfiques pour plein de choses, notamment pour la fascination, parce que dans le jeu en fascination, il y a quand même une recherche de la cohérence. On parlait de quantité d'informations concordantes. Et la proposition de validation, elle est là pour filtrer les propositions, pour arriver à un maximum de propositions qui sont concordantes entre elles. Le fameux réalisme, la notion de réalisme ou la notion de respect d'un canon esthétique qui est différent du réalisme, mais en commun, elles ont la notion de cohérence, quoi. Et l'opposé de ça, de cette posture-là, c'est le énoncé accepté. Que tu as beaucoup en théâtre d'improvisation avec le fameux toujours dire oui. C'est-à-dire que je te dis... au lieu de te dire est-ce que tu es d'accord pour jouer mon frère, je te dis on est frère. Et toi, plutôt que de me dire oui, non, tu es toujours d'accord avec ce que je vais dire. Et c'est un mécanisme qui se renforce. C'est-à-dire que si tout le monde a prévu de dire oui ou oui, mais, parce que tu peux dire oui, je suis ton frère, mais je te rappelle que ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ou je suis ton frère, mais je te déteste. Enfin, tu vois, c'est un 8 mai, quoi. Si effectivement, si tu sens que la personne te propose en fait une relation fraternelle et donc on est copains comme cochons, quoi, entre guillemets, quoi, comme deux frères peuvent l'être, mais que toi, tu acceptes le fait qu'on soit frère, mais tu l'amendes en disant ouais, on est frère, mais on peut pas se piffer, quoi. Ou on est les exacts opposés l'un de l'autre, quoi. On est comme avec Schwarzy et. Daniel De Vito,
c'est quoi, c'est Tango et Cash, non?
Non, c'est jumeaux.
C'est jumeaux. C'est autre chose encore. Ouais.
Et l'énoncé accepté se renforce parce que du moment que tu sais que les autres personnes sont dans l'acceptation, dans le 8 mai, eh ben tu te sens autorisé à énoncer en fait, à énoncer des faits plutôt que des propositions.
Est-ce que c'est pas plutôt énoncer et rebondir? Que énoncer et accepter, puisque...
C'est énoncer, accepter, rebondir, quoi.
Parce que finalement...
Parce que dans le rebondir, il y a le préalable au rebondir, c'est l'accepter.
Oui, mais
c'est
dans
le préalable au mais, c'est le oui.
Dans la distinction que tu faisais avec la proposition précédente, dans l'énoncé, tu avais le fait de l'acceptation. Ce que tu disais qu'on a proposé... C'était quoi? Proposer, valider.
Proposer, valider. C'est-à-dire
et
que
ensuite...
Est-ce que tu es d'accord pour que A...
Oui.
Et la personne répond oui ou non.
D'accord.
Donc et... énoncer, accepter, c'est où tu dis pas est-ce que tu es d'accord pour que A, et tu dis A, et la personne elle dit ni oui ni non, elle dit A plus 0, ou elle dit A plus B, quoi.
Voilà, donc c'est pour ça que je parlais de rebondir, parce que pour moi, dans l'énoncé, dans ce cas-là, tu avais la notion d'acceptation, ne serait-ce que par opposition avec le cas précédent. Un point intéressant avant que tu poursuives, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les conseils qu'on entend donner aux maîtres du jeu depuis quelques années déjà, hein, mais il y a ce deuxième mode qui a vraiment, vraiment pris le dessus, quoi. Dans la plupart des conseils qu'on entend.
Tu veux dire le énoncé accepté ?
Le énoncé accepté, absolument.
Oui, mais je trouve qu'il est encore vachement limité à la relation avec le MJ. C'est-à-dire que le joueur énonce, le MJ accepte, Et le MJ énonce, le joueur accepte, mais entre joueurs, on reste dans du proposé-validé. Après, attention, ça c'est des observations vues de ma fenêtre.
Oui, et puis de toute façon, on est bien d'accord que ça dépend des pratiques, ça dépend des tables, ça dépend des jeux, ça dépend des joueuses, ça
et
dépend
quand,
de tout.
Dans Dragon Flame Hotel, on en a un petit peu parlé, mais c'est un jeu que je suis en train de repimper avant sa publication. Et notamment dans Dragon Flame Hotel, il y a une interdiction du discours méta. Et il y a aussi l'autorisation en fait de rompre la cohérence, c'est-à-dire que on accepte tout ce qui est dit, quitte à plus tard le contredire en fait, parce qu'on a le droit de changer on a le droit de casser la temporalité, de rejouer des scènes, tout ça. Et en fait, c'est un mode de jeu, bon, certes, qui est pas particulier puisqu'on est dans plein vertige logique, mais c'est un mode de jeu qui est vraiment basé sur les énoncés acceptés. Et notamment, ce qu'on constate c'est que ça joue des aventures très très speed, c'est-à-dire que tu joues en une heure, t'as l'impression d'avoir fait un film de 4 heures, quoi. Bon, j'exagère peut-être, mais t'as vraiment une impression de vitesse qui est extrême, dans le sens où l'énoncé accepté, c'est un mode de jeu qui est très rapide, quoi, qui se passe de périphrases, qui se passe de chasse et croisée.
Et qui se passe de négociations aussi.
Voilà. J'embraye sur la minute de silence, qui est un facilitateur de l'entrée en immersion et même de la réception. Moi, c'est une pratique que j'essaye de mettre dans mes jeux, puis tout simplement en partie, notamment quand on a prévu de jouer ambiance, quoi. C'est-à-dire avant de commencer à jouer, on fait tous une minute de silence chronométrée, et généralement pour marquer la fin de la minute de silence, si je peux, je lance la musique en fait, je lance la musique d'ambiance. Et en fait, c'est une notion d'entrée, de changer de phase. Un peu comme dans l'immersion, il y a quand même la notion de plonger, en fait. On plonge dans quelque chose d'autre, un autre univers, quoi. Et en fait, la minute de silence, c'est une forme de petit bassin.
J'ai l'impression que ta minute de silence que tu décris ici, c'est un bon moyen de te mettre en immersion esthétique. Mais est-ce que ça marche pour toutes les formes d'immersion ?
Je crois que c'est pas mal pour effectivement la fascination, la transe, et je pense que c'est bien aussi pour le bleed.
Oui, pour le bleed aussi, ouais, sûrement.
Bon, effectivement, si on se fait un Pathfinder, je vais pas demander une minute de silence à mes joueurs, quoi. Ils vont penser que j'ai pété un câble.
Oui, mais d'un autre côté, l'harmonie, voilà, c'est le terme que je cherchais. Est-ce que tu peux pas imaginer des équivalents de la minute de silence pour ces autres formes je sais pas, c'est des réflexions qui me viennent.
Pour
là.
Moi, une alternative à la minute de silence, c'est l'échauffement, quoi.
Oui, c'est ça, oui.
L'échauffement, donc l'échauffement qui peut être le brainstorm commun, l'élaboration du contrat social ou des scènes d'introspection pour démarrer. L'échauffement, c'est aussi une forme de passage, en fait, de sas. En fait, tout simplement de la réalité prosaïque à la réalité virtuelle.
Ouais.
Ok. Et il y a le placard à immersion.
Le fameux.
Voilà, qui nous fait toujours beaucoup rire.
D'ailleurs, nous faisons un petit coucou à monsieur Steve J.
Voilà.
Qui se reconnaîtra.
Le placard à immersion, c'est. Alors c'est marrant parce que je sais pas en fait si les articles qui ont introduit ça sont des articles sérieux, des articles humoristiques sur les articles que tu as sur le Jeep Form et le Jerk Form aussi sur PTG, PTB. Des fois j'ai vraiment la sensation que le Jeep Form à la base c'est une blague, quoi. C'est une plaisanterie et qui a été prise vachement au sérieux.
Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible.
Et il y a un article qui était super intéressant. Alors... sur Casus qui était le jeu Dogme.
Ah, je me souviens pas de ça.
Jeu d'homme, c'était par Chaviro sur Casus, et notamment, bon, c'était une grosse blague, mais il y avait des choses qui étaient très intéressantes d'un point de vue théorique, manipulatoire, notamment dans le jeu Dogme, il y avait l'interdiction, dans le Dogme, le cinéma Dogme, Lars von Trier, Thomas Vinterberg, tout ça, il y a notamment l'interdiction de faire des effets spéciaux, quoi, faire toute chose qui vraiment vous rappeler la technique, parce qu'un effet spécial, ça te rappelle que c'est du cinéma, que c'est pour de faux, et dans le Dogme, mais une sensation de d'avoir une sensation de vrai. Et notamment la caméra à l'épaule aussi fait partie de cette sensation de vrai, quoi. Parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, notre vision, elle est pas stable parce qu'on est tout le temps en mouvement, même quand on est assis, quoi. Donc, le plan fixe, quelque part, c'est quelque chose en termes de réception qui est en contre-immersif, quoi. Et il y avait dans le jeu Dogme, il y avait l'interdiction dans l'emploi de terme méta. L'interdiction de jeu méta, qui est en fait un peu l'équivalent des effets spéciaux au cinéma, quoi.
Oui, on
voit... Il y avait l'interdiction de surnaturel aussi. Qui a un commun avec le dogme, en fait. Je crois qu'il prenait le terme à l'envers, ou au contraire, il fallait absolument du surnaturel, je sais plus.
Le Jeep Form, j'ai entendu, alors c'est peut-être une légende, mais la légende que j'ai entendue à ce propos-là, c'est que le nom a été choisi justement parce qu'il ne voulait rien dire de particulier pour éviter que les pratiquants aient besoin de définir leur loisir.
Bah, tout comme, tu vois, on est emmerdé quand j'emploie des termes comme trans, fascination, pour l'immersion. C'est des termes qui veulent dire autre chose. On parlera tout à l'heure de synesthésie qui veulent dire autre chose. Par ailleurs... Bon, enfin, et c'est vrai que des fois, inventer des mots pour développer des objets théoriques, c'est un pis-aller, on va dire, quoi, qui peut être intéressant. Oui. Ok, on sort vachement du sujet. Le placard à immersion, c'est l'idée que tu t'enfermes dans un placard et tu penses très fort à ton personnage. Et quand tu sors tu ne sors pas du placard tant que t'es pas complètement réimmergé dans le personnage. C'est, en fait, quelque part, c'est une façon de se mettre en bleed tout seul, quoi.
Bah, c'est ta minute de silence, hein, en quelque sorte.
Ouais. Oui, la minute de silence, c'est un placard immersion soft. Ouais. J'embraye avec la notion de distance critique. Y a le sur les voies d'Altarine, on a fait le podcast sur le vertige logique. Hein,
tout à fait.
Je précisais que ça peut être bien, notamment pour atteindre la transe via le jeu en vertige logique. Le jeu en vertige logique, c'est qu'en fait, c'est un jeu où il se passe où la physique, les lois de la physique sont complètement transgressées, pour faire simple. Les lois de l'espace et du temps sont un petit peu malmenées dans le jeu à vertige logique. Et j'avais tendance à dire qu'il fonctionnait mieux si on évitait de prendre une distance critique, c'est-à-dire de critiquer. De se dire, ah ouais, mais par exemple, on fait un jeu avec des voyages dans le temps, des paradoxes temporels. Le problème, c'est qu'on est, quand on fait une aventure de jeu de rôle, on fait qu'une prise. Pour moi, c'est quasiment obligatoire que nos paradoxes temporels aient des problèmes de logique.
Ça fait partie de la suspension d'incrédulité,
ouais.
Tout ça.
Ouais, tout à fait, on va y rejoindre. Et en fait, l'idée, pour faciliter notamment son immersion en fascination, pour moi, je pense que c'est important de mettre de côté sa distance critique. C'est-à-dire être bien conscient. De toute façon, c'est du jeu de rôle, on ne fera qu'une prise. Ça veut dire que la physique de l'univers, elle va être complètement pétée. Les réactions des personnages comme des figurants, elles vont être discordantes. Enfin, il y a plein de choses, en fait, Frédéric Saint-Hez dit « le réalisme est une chimère », par exemple. Hein. Et en fait, se dire « c'est pas grave ». En fait, une idée de consentir à croire. Effectivement, consentir à croire, le synonyme un peu, c'est ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité, et qu'on pourrait plutôt dire suspension volontaire d'incrédulité.
Bien sûr. C'est très, très intéressant parce que tu mets en lumière, par ce concept-là, probablement une des causes des dysfonctionnements de partie à cause des joueurs experts.
Ben, en fait, il y a deux postures. Le joueur expert, ça peut être une personne effectivement qui attend de l'aventure qu'elle protège sa suspension d'incrédulité. Et donc, par conséquent, il va arriver avec des exigences. C'est-à-dire que si il voit trop d'informations non concordantes, il va bugger et ça va le sortir de son immersion. Et puis à la fin de la partie, il va râler. Soit il va râler à la fin de la partie, soit il va interrompre la partie pour rebriefer, remettre les informations en concordance. Mais quelque part, le mal, il est déjà fait, quoi. Il s'est sorti quand même de son immersion. Et l'attitude inverse, c'est... je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je dirais une forme de bienveillance, mais j'aime pas ça parce que ce serait un peu critiquer le joueur expert, quoi. Vraiment consentement. C'est jouer en consentement. C'est dire, je pars du principe que l'aventure, elle est vraie. Et il y a, je ne sais plus qui dit, toutes les histoires sont vraies, surtout celles qui sont inventées. Donc ça, c'est une disposition d'esprit qui facilite l'entrée en immersion. Et nous, quand on joue en vertige logique, on a des aventures. Dès qu'on commence à les débriefer, on se dit « bah non, mais il y a plein de trucs qu'on n'a pas expliqués, ça, c'est pas logique. »
Ça te renvoie aussi un petit peu à ce que dit Romaric Briand dans le Maelstrom, quand il te parle aussi de son contenu fictionnel malléable en t'expliquant que la fiction n'existe pas. Ce sont ces termes, hein, on va lui laisser, mais justement, si tu suspends ton jugement de cette manière-là, tu peux accepter des situations qui ne tiennent pas debout. Et j'ai l'impression que ce qu'il dit quand il dit qu'il y a pas de récit, enfin que tu ne produis pas de fiction, c'est qu'en fait tu ne peux pas produire dans ces conditions-là un récit qui soit vraiment cohérent. Parce que un récit cohérent, tu parlais d'une seule prise tout à l'heure, ça demande souvent beaucoup de travail pour vérifier la cohérence. Moi j'ai des, on a Morgane par exemple qui écrit des bouquins et qui participe au podcast, qui régulièrement cite des moments où il se rend compte qu'une scène qu'il a écrite est complètement discordante avec ce qu'il y a eu avant, quoi. Qu'il n'y a pas de cohérence, ouais, parce qu'il a oublié un détail.
C'est comme Raymond Chandler dans Le Grand Sommeil, il y a un journaliste qui l'interroge et qui lui demande « Ah, votre bouquin est super, mais il y a quand même un truc, c'est ce personnage qu'on voit au début de la partie, qu'est-ce qui lui arrive finalement ? C'est pas raconté par le roman. » Et Chandler fait « Ah bah, je suis désolé, mais je l'ai oublié. »
Oui, voilà, ouais.
Bon, peut-être qu'il a écrit son bouquin bourré ou sous cocaïne, hein, comme sans doute beaucoup d'auteurs de polar le faisaient. J'ai pas vérifié. En fait, le truc, c'est que l'espace imaginaire, il est elliptique. L'espace imaginaire, c'est des constellations de faits dans un infini de non-dits. Et donc, pour que ta réception soit optimum, c'est à ton cerveau de boucher les trous, en fait, de faire que cette constellation elle devienne un espace plein. Et je vais te donner un exemple. Une fois, on a une partie, j'ai un MJ qui m'a fait ce que j'appelle la partie fil de fer. C'est-à-dire qu'en convention, le MJ me fait jouer du Donjon et Dragon. Et en fait, il ne décrivait rien. C'est-à-dire, il disait, là, tu vois un monstre. Là, tu rencontres une personne. Vous rentrez dans un village. Où vous allez dans un cimetière. Quand on disait j'attaque le monstre, il nous disait on avait des feuilles de personnages mais elles étaient incomplètes. C'était marrant, tout n'était pas fini, elles étaient incomplètes. Et il nous disait lance un des 20. On lançait un des 20 et il nous disait ce qui se passait sans employer aucun terme technique. Genre il disait en fait je crois que c'était même binaire quoi. C'était le monstre est toujours vivant ou le monstre est mort. Et encore aujourd'hui, je m'interroge pour savoir si c'était un MJ très très nul ou si c'était une espèce de doudingue qui avait décidé de nous faire vivre une expérience d'abstraction totale, quoi. Et là, si tu veux, pour se placer en réception, jouer au jeu, il fait vraiment une qualité de remplissage du vide impressionnante, quoi. Ton cerveau est obligé de faire un maximum de boulot que le MJ ne faisait pas, quoi.
Bah, j'ai l'impression que c'est aussi...
Et donc ce remplissage de vide, il est bienveillant ou il ne l'est pas, enfin dans le sens où il consent à remplir de vide de façon à produire une image harmonieuse. Et c'est ça les fameux effets d'optique. C'est que des fois, on te colle deux trucs, et en fait la véritable forme n'a aucun sens. Mais toi, tu vas y mettre un sens, comme quand on voit un visage dans une tache d'encre ou ceci, cela, quoi. Et ça, c'est important en jeu de rôle. C'est cette capacité qu'on a, tout comme on est capable de voir du cinéma comme de l'image en mouvement alors que c'est une succession d'images fixes, tout comme on est simplement capable de voir et d'évoluer dans le monde réel, hein, parce que en réalité c'est pareil, on ne voit pas en continu dans la vraie vie, hein. On voit en flash et c'est ce que les migraineux chroniques expérimentent. Les migraineux chroniques, ce recollement du temps, il est cassé chez les migraineux chroniques et donc ils voient par image fixe. Essaye d'imaginer que tu vois au lieu de... en fait, on a l'impression qu'on voit en infini d'images par seconde. C'est une illusion en réalité.
Absolument, oui.
Ça se trouve, on voit peut-être... Je dis n'importe quoi, mais ça se trouve, on voit 5 images par seconde. Peut-être même moins encore.
J'avais lu un article scientifique, je crois, ou un compte-rendu d'article scientifique. Alors, J'arrive pas à remettre la main dessus, mais il me semble qu'il y a des, je sais plus si c'est des oiseaux, je crois, qui voyaient avec plus de d'images par seconde que nous humains et qui leur permettaient de repérer des mouvements beaucoup plus rapides et d'être beaucoup plus performants dans leur chasse, en fait, aux insectes ou ce genre de choses.
Alors,
C'était l'anecdote scientifique inutile,
yes,
merci.
c'était la minute nécessaire. Et on va embrayer sur le jeu méta, qui va être accusé du pire que du meilleur. Le jeu méta, donc, c'est les fameux discours qui dépassent le cadre du roleplay, qui dépassent le cadre de la description, qui dépassent, on va dire, le cadre de la diégèse. Pour entrer dans autre chose, qui est encore l'aventure et qui l'est plus tout à fait. Donc le fameux discours mécanique, l'humour méta, le commentaire sur la fiction. Voilà, t'es quand même, tu t'es comporté comme un beau salaud. Alors, ce discours méta, des fois je trouve qu'il favorise l'immersion, et des fois je trouve que pas. Par exemple, le truc de Ah, moi, par exemple, quand je regarde une série, j'ai vachement besoin de commenter. C'est peut-être aussi mon côté rôliste. Et en fait, ça me sort pas du tout de l'immersion. J'ai d'autant plus l'impression d'être dans le film. Parce que comme je le commente, c'est comme si j'explorais la fiction du film.
Tu y participes.
Comme si je marchais à côté du héros. Et que je dis, pardon, ah non, surtout, prends pas cette porte, tu vas te faire couper en deux, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi.
Je vois à peu près ce que tu veux dire et j'étais en train de me dire que ça collait dans tes définitions d'immersion, ça collait à l'harmonie en fait, quelque part. Une tentative
À
d'harmonie.
l'harmonie, effectivement, à l'harmonie, puis ça procède aussi, je pense, de la fascination, c'est-à-dire le commentaire comme. Comme complicité avec cette réalité virtuelle, le fait de j'explore la réalité virtuelle comme un musée et je la commente. Et ça procède des deux,
L'analyse
je
qui
pense. Ouais,
augmenterait la fascination, quoi.
tout comme quel beau salaud, ça c'est lié au bleed en fait.
Oui.
C'est parce que le jeu moral, il y a un gros besoin d'expression du jugement en fait et de réception du coup de ce jugement, quoi. C'est-à-dire que ça va te. Si tu es en train de, tu fais une action et l'autre te traite de salaud en méta, ça va d'autant plus te plonger dans ton action, dans le positionnement moral et du coup dans ton identification au personnage. On pourrait parler de jeu en simulacre, hein, qui est développé par Romaric et tout, qui pourrait être sujet à débat. Mais en tout cas, quand on est en posture de jeu en simulacre et que la personne va en plus commenter tes actions, il y a vraiment une notion d'identification qui va être forte à ton personnage, quoi. Le personnage, c'est toi. Le joueur, il commente ce que tu fais. C'est comme s'il commentait ce que tu étais en tant que personne. Des fois, ça peut même introduire des malentendus, d'ailleurs un peu inconfortables, hein, quand tu dis le MJ m'a traité de salaud, mais est-ce qu'il traite le personnage de salaud ou est-ce qu'il traite le joueur de salaud? Donc il y a des moments où le jeu méta il provoque la rupture d'immersion. Je pense il y a les fameuses latences, lenteur du système, infodump, c'est-à-dire quand le MJ te bombarde d'informations sur l'univers et à un moment ça te place tellement en surplomb, c'est-à-dire qu'il te donne plein d'informations que ton personnage n'est pas censé connaître. Et que ça te sort du truc, quoi. C'est un peu comme si tu te retrouves en train de lire l'encyclopédie de l'univers au lieu de vivre l'aventure, quoi. Voilà, hein, donc tu peux avoir de l'infodump tactique, hein, où en fait le MJ arrête pas de te briefer sur les règles, ou le juriste de la table, hein, pas forcément l'MJ d'ailleurs. Il y aura peut-être d'autres exemples, mais bon, je pense qu'on en a déjà bien assez pour comprendre les moments où le méta va casser ton immersion.
Tu parlais en préparation un petit peu aussi de la blague méta, qui va
La
être
blague
vraiment.
méta, effectivement, j'allais y venir. La blague méta, elle est dans les jeux de rôle d'horreur, par exemple, t'as l'humour comme décompensation. En fait, ton immersion, dans l'immersion, il peut y avoir quand même une notion importante d'inconfort. On parlait du bleed et du rage quit. On peut aussi avoir dans la fascination une scène d'horreur bien gore, même si t'es pas identifié à ton personnage. Ça va quand même te remuer des trucs, quoi. Hein. Et donc, il y a des moments où on se fait des sorties volontaires d'immersion, quoi. C'est-à-dire, là, j'ai besoin de respirer un petit coup. Le côté plongée sous-marine de l'immersion, on a vraiment là. Non, là, j'ai besoin d'air. Donc, j'ai balancé une bonne grosse vanne de blonde. Et du coup, ça va me sortir du truc, quoi.
Ouais, mais alors c'est très intéressant parce que là, tu parles de plongée et j'ai l'impression que si tu plonges dans l'immersion très profondément,
Une notion de palier.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Il y a une notion de palier.
C'est
assez
mal vu. Du coup, l'humour méta, on va dire, va là. Par exemple, tu étais dans une scène gore et tu veux décompenser. C'est de faire des commentaires qui soient très liés, je pense, à la fiction. Qui ressemble en fait à une spéculation sur un des avenirs possibles du personnage, quoi. Ah putain, là, mon personnage, il va se faire débiter en apéricube, quoi. T'as un peu d'humour, quoi. Mais on reste quand même dans la fiction, quoi.
Voilà.
Tandis que si tu commences à faire des citations de Wayne's World, qui n'ont rien à voir avec la saucisse, eh bien, là, effectivement, tu crames les paillettes de décompression. Ce qu'il faut quand même oublier, c'est qu'en plus, on est des plongeurs, mais on est encordés. Hein.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc, si on a un qui remonte à toute vitesse, ben, les autres y suivent, qu'ils le veuillent ou non. Quoi.
Absolument. Et quand tu as passé des heures à vouloir mettre une ambiance... c'est...
Voilà, on est en mode c'est grand bleu. Hein. Et puis, il y en a un qui tire sur la corde et qui remonte les autres à toute vitesse. C'est chaud. Hein. Et ça peut carrément amener des exclusions de joueurs. Hein.
Absolument, ouais, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ça peut t'amener à choisir les parties que tu vas proposer à certains joueurs, oui, tout à fait.
Après, je suis sur l'humour méta. Quand on est en mode jeu de rôle social, l'humour méta, pour moi, il est vraiment important, justement, dans cet accès à l'instant de grâce.
Bah, ce sont des éléments qui te permettent justement de t'harmoniser au groupe.
Ouais,
quoi,
commentaire sur
ouais,
la fiction,
ça, ouais.
Tout à fait.
Y compris le commentaire humoristique, du coup.
Voilà. Et on a la notion de synesthésie. Frédéric Saint-Hès, à nouveau, encore lui, on le salue bien bas. Je pense que sans lui, on ne serait pas là en train de causer.
En espérant que, de toute façon, il ne soit pas trop offensé par la façon dont on utilise ces concepts, peut-être mal parfois dans nos podcasts, mais...
Eh ben voilà, moi, il fait des très beaux outils. Moi, je sais que j'ai un grand plaisir à les reprendre et à les retailler
à
ma taille, quoi, on va dire. La synesthésie, alors, juste, je rappelle, c'est quoi la synesthésie en biologie ? La synesthésie en biologie, c'est quand tes canaux neuronaux sont pas bien câblés, en quelque sorte, et que tu une information... par exemple, on te passe de la musique et en fait, tu vois une couleur. C'est un état qui est atteint quand tu prends du LSD, notamment parce que justement, au niveau neurobiologique, il va se passer des trucs qui fait que les branchements, ils se font pas dans le bon sens, quoi.
Et c'est souvent un état qui est souvent atteint par des autistes de haut niveau, par exemple.
Ouais. Mais tu peux l'atteindre en écoutant de la musique. Hein. Si tu écoutes de la musique et que tu es immergé dans la musique, tu vas te faire une histoire dans ta tête, tu vas visualiser des trucs, quoi.
Je dirais qu'il y a, une différence, bon, c'est, encore une fois, entre la synesthésie biologique et l'interprétation, c'est-à-dire qu'une musique va créer des images, mais tu ne vas pas voir des images là où tu ressens la musique, si tu veux. C'est vraiment deux choses différentes pour moi.
Ouais, la visualisation, c'est presque une forme... très complexe de synesthésie et qui est vraiment basé sur un consentement du cerveau, c'est-à-dire que je consens à visualiser, tandis que la synesthésie c'est une expérience soit que t'as une maladie neurobiologique, soit que tu prends des substances, mais il y a une altération, quoi, c'est un dysfonctionnement biologique.
Tout à fait.
Hein.
Pour prendre un exemple plus restreint et sans construction mentale profonde. Quand tu vas décrire, moi il m'arrive souvent quand je veux décrire ou me décrire une saveur, j'associe très souvent la notion d'acidité avec la notion d'aigu. Voilà. Et la notion d'amer avec la notion de grave, etc. Mais c'est des termes que j'emploie pour expliquer ce que je ressens, mais ce n'est pas ce que je ressens. Alors que le synesthète, lui, c'est ce qu'il ressentirait directement.
Mais du coup, ça me rappelle un truc important.
Je t'en prie.
Il y a des MJ qui sont très importants dans la notion de quantité d'informations concordantes. C'est dire le fameux conseil jouer avec les cinq sens. Parce que ce qui est important, c'est que si je te décris un gros gâteau ou une belle poularde bien odorante et tout, et ben tu vas te mettre à saliver alors que tu n'as rien en bouche. Parce que il faut quand même rappeler que l'être humain a quand même cette capacité assez importante à de toute façon ne pas dissocier l'expérience imaginaire de l'expérience réelle, quoi. La synesthésie, c'est un choix mécanique, un choix de game design ou une pratique émergente, hein, c'est pas forcément un choix de l'auteur, ça peut être une pratique des joueurs. Moi, je vois, hein, ça arrive. Je prends une pratique émergente. Alors, avant, faut que je définisse, c'est quand l'usage d'une mécanique, donc on est sur du méta, l'usage d'une mécanique va vraiment évoquer l'action du personnage. Par exemple, toutes les situations quand tu aides un personnage, tu lui donnes un dé. Eh bien, le fait de prendre les dés qui sont devant toi, de les prendre et de les donner physiquement à la personne en face, c'est quelque part tu accompagnes le geste de ton personnage qui arrive au milieu du combat pour aider l'autre, quoi. C'est quelque chose qui fait un appel à la mise en jeu du corps qui va justement rajouter encore une information concordante, qui ne s'est pas levé pendant un combat, qui ne s'est pas levé pour mimer son personnage. Ça, c'est quelque chose qui va renforcer l'immersion. Pratique émergente en synesthésie, je vois à Dragonfell Motel, la feuille du personnage elle est divisée en plusieurs petits papiers. La partie qu'on a fait cet après-midi, il y a un moment, mon personnage a une lettre d'amour, c'est un de ses petits papiers. Et en fait, normalement, la pratique réelle du jeu, c'est quand on met quelque chose en jeu, un de ses papiers en jeu, on le défausse au milieu de la table. Donc si je commence à parler de mon enveloppe, c'est un petit peu comme dans Il était une fois, je défausse la carte, le papier où c'est marqué lettre d'amour, je défausse au milieu de la table. Sauf que là, j'ai donné la lettre d'amour à un autre personnage. Et bien, en fait, j'ai pris mon papier, pratique émergente, non prévue par les règles, j'ai pris mon papier et je l'ai donné physiquement à l'autre joueur. Ça, dès que tu commences à jouer avec des fameux papiers traîtrises, dès que tu commences à jouer avec des papiers et des pratiques émergentes comme ça qui arrivent, c'est le principe dans Sacrifice, tes ressources, Sacrifice, un jeu en développement de chez Ryu, tes ressources sont symbolisées par des papiers et c'est des ressources que tu vas sacrifier pour atteindre ton objectif. Et en fait, quand tu sacrifies la ressource, tu prends le papier et tu le déchires, quoi. Et là, y a un effet synesthésique très fort, quoi. Vraiment, le sacrifice de la ressource, qui est généralement une attache, une personne qui t'est chère ou un objet qui t'est très précieux, est vraiment mis en jeu, quoi. La réception dans l'émission. Tu m'arrêtes, hein, si je suis trop rapide.
Je t'en prie.
Si je te coupe dans tes réactions. Je me pose la question de savoir si on peut être dans l'émission. Dans la réception, tout en émettant, c'est-à-dire être dans la contemplation de ce qu'on est en train d'émettre. C'est-à-dire, par exemple, tu fais une super description, et en fait, ça te plonge dedans, quoi. Je pense que oui, hein. On avait le fameux truc de décrire les émotions pour les ressentir, décrire un univers pour être plongé dedans... Il y a cette notion en fait que la réception c'est pas forcément juste être à l'écoute, c'est être à l'écoute de son action aussi, quoi.
Mais est-ce que ça va pas être à l'encontre dans certains cas du jeu avec les autres? Parce que finalement quand tu me dis ça, j'ai l'impression
tu te regardes jouer, c'est ça, ouais.
Tu te regardes jouer, tu t'écoutes parler, tu oublies que tu n'es pas seul, quoi. Et du coup, est-ce que ça ne risque pas de casser l'immersion des autres qui vont se dire « bon, c'est bon, il nous fait son discours, il le fait à chaque fois et ça suffit ?»
Je pense que dans la notion d'écoute mutuelle, je pense que c'est important, en fait, quand une personne se met à émettre, de toute façon, les autres l'écoutent. Et quelque part, ça lui donne une autorisation, et notamment pour arriver à cette harmonie, de s'écouter elle-même. En respectant, surtout quand on joue justement, qu'on joue en harmonie, il y a une notion de respect du temps de parole. C'est-à-dire que, ok, là, je suis lancé dans ma description, je me fous à fond dedans, je m'écoute parler, effectivement, mais je sais que, faut pas que j'abuse de ce droit-là, ça veut dire que, effectivement, si je fais un monologue de 15 minutes, ça va poser problème. Mais le temps de ma description que je m'accorde pour respecter le temps de parole des autres, eh ben je kiffe l'instant, quoi. Et je pense que ça, c'est, ça reste une pratique saine, quoi. Il y a une notion, et on va en arriver assez rapidement. Et bien, en fait, on va même en arriver tout de suite. Il y a une notion de pleine conscience, d'être complètement présent dans l'aventure. C'est-à-dire que quelque part, quand on est en immersion, eh bien, c'est quelque chose qui peut être rapproché de l'état de pleine conscience. Alors, je pense que je vais avoir besoin de définir ce que moi, personnellement, j'entends par la pleine conscience. Qui, quelque part, pourrait être complètement être antinomique avec le fait d'être dans une aventure. Parce que la pleine conscience, c'est, on va dire, une forme de méditation qui t'amène à être complètement présent au présent, à l'instant présent. C'est-à-dire... aux sensations de ton propre corps, ta respiration, tes organes, il y a une notion de scan corporel où en fait on essaye de visualiser le contenu de ses organes, son squelette et tout. On les voit pas, mais on peut les ressentir, quoi. Une sorte de viscéralité, quoi. Et en même temps, spontanément à ça, il y a la notion de contempler le décor autour de nous avec une grande vigilance, une grande lucidité et une présence. C'est-à-dire que dans ce moment-là, eh bien, on est dans le présent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est ni dans le passé ni dans le futur. Ça veut dire que finalement, on écoute tout ce qu'il y a autour de nous et en nous, sauf nos pensées. Alors, on les entend. Parce que c'est impossible de s'arrêter de penser. On va dire que c'est une impossibilité biologique. L'état de méditation, ça n'est pas arrêter ses pensées. Parce que c'est comme arrêter de respirer, c'est impossible. Mais c'est se contenter de les laisser passer, en fait, de les entendre. Tout comme on entendrait un ruisseau passer à côté de nous. Mais de les considérer comme des informations sans les juger, en fait. Il y a une notion d'absence de jugement dans la pleine conscience. Et notamment les pensées, en fait, c'est des choses qui nous sortent du présent parce que on est en train de penser à ce qu'on va faire demain matin, ou au contraire, on se rappelle un souvenir agréable ou douloureux, quoi. Donc, généralement, les pensées, en fait, sont rarement focalisé sur le présent. Et puis même quand elles sont focalisées sur le présent, il y a une notion de jugement, dire « Ah bah ce frigo est beau, cette personne est moche, il fait froid, j'ai trop froid, j'ai trop chaud. » Et en fait, il y a un effet domino qui fait que ça va nous sortir du présent parce qu'on est en train déjà de dire « Ah oui, il fait froid, il faudrait que je monte le chauffage, cette personne est moche, il faudrait que j'évite de la fréquenter à l'avenir, tu vois, ainsi de suite. » Et donc quelque part on pourrait dire c'est impossible d'atteindre un état de pleine conscience quand tu es dans une aventure, puisque quelque part tu es complètement dans ton imaginaire, tu es complètement à l'écoute de tes pensées, quoi. Et pour autant, dans le sens où la pleine conscience c'est pas une conscience totale, puisqu'il y a un tri de l'information, puisque quelque part la pleine conscience c'est la conscience moins le jugement. Et on va dire la perception en pleine conscience, c'est-à-dire être complètement dans le présent de l'aventure. C'est-à-dire je suis complètement dans l'aventure. Je ne suis pas en train de penser à ce qui va se passer dans l'aventure plus tard, ce qui va se passer dans l'aventure avant, ou ce qui est en train de se passer dans mon salon. Je suis concentré sur l'aventure. Et ça peut se rapprocher d'un état de pleine conscience.
C'est un transfert de la conscience dans cette construction mentale, finalement.
On est présent, voilà, on est présent dans l'harmonie, on est présent dans la fascination, on est présent dans cet univers mental. Et des fois, c'est un truc que j'essaie, c'est un exercice, de dire, ce que j'appelle du tourisme holistique, en fait. C'est quand tu es dans l'aventure et en fait, juste tu regardes en fait l'aventure plutôt que d'agir dedans, en fait y a un moment tu regardes l'aventure ou tu te regardes en train d'agir, quoi. C'est bon, c'est assez abyssal. Hein. Bon, je. Alors ceux qui m'accuseront d'être fumeux à ce moment-là auront peut-être raison. Hein. Mais c'était quelque chose que je voulais aborder. J'appelle ça une notion de. On pourrait appeler ça une notion d'ultra vigilance, d'ultra lucidité aussi quoi. Enfin, lucidité du monde virtuel quand même. C'est un peu.
D'immersion en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est quelque chose que je mettrais en parallèle. Et là, je vais renvoyer au podcast sur l'expérience mystique, podcast de la cellule.
Oui, oui, oui.
Avec ce que j'appelle l'expérience du désordre. Rimbaud parlait d'un volontaire et progressif dérèglement de tous les sens. C'est ce qu'on appelle aussi l'expérience chamanique, quand tu rentres en transe, c'est-à-dire que tu vas te mettre à danser à mort avec de la musique tribale répétitive, éventuellement sous substance. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu casses la machine réceptive, quoi. C'est-à-dire que tu altères tellement ta réception que ça te plonge. Alors c'est une forme de pleine conscience, mais c'est une pleine conscience dans un univers faux quoi, dans un univers mental quoi. La transe de rêve party par exemple, et je dis pas que la personne qui est dans une rêve party elle est inconsciente du monde qui l'entoure, mais il y a cette notion d'effacement du temps et cette notion de vertige quoi, hein, qu'on peut rencontrer en jeu de rôle, quoi. Qui est quelque chose qui est souvent, je pense, souvent confondu avec la pleine conscience. Quelque part, c'est un peu le zen contre le chamanisme. Dans Prosopopée, c'est un jeu, je pense, qui vise un peu cette histoire de pleine conscience et une notion de jeu zen, avec le fait qu'on prend du temps. On prend du temps pour écouter les autres parler, on prend du temps pour vivre l'aventure, pour être présent à l'aventure. C'est une chose que j'avais essayé dans la première version de Dragonflame Hotel, où en fait, pour avoir une prise de parole, il fallait demander la parole aux autres sous forme d'échange de papier. Donc on était quelque part sur une démarche zen, avec un ralentissement, avec une latence faite exprès pour justement être présent en fait à l'aventure. Et je l'ai remplacé par une prise de parole freestyle, c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre la parole n'importe comment sans demander la permission et se retirer aussi vite. Et là, du coup, on se rapproche beaucoup plus d'une expérience du désordre, avec notamment des parties ultra rapides du fait de des aventures qui se déroulent ultra rapidement du fait de cette prise de parole libre, cette interruption possible tout le temps en permanence, qui fait que du coup, ça marche très bien pour se plonger en transe et du coup, on a tendance à se plonger en transe et on va faire des propositions de plus en plus barjots parce que on est en plein trip en fait. Hein, y a une forme on est en trip, on n'a pas pris de substance, mais on est quand même en plein voyage quoi. Hein.
Question. Le lâcher-prise que tu peux utiliser pour faire de l'improvisation, par exemple,
ouais.
Ça participe de quelle expérience parmi la pleine conscience et l'expérience du désordre, d'après toi ?
Expérience du désordre.
C'est ça, d'accord.
Ouais, je pense.
Le fait de se laisser porter par ta propre description, ouais. Par les réactions des gens autour de toi, par la musique,
ouais.
et de donner forme à tes pensées,
ouais.
Simplement au moment où elles sont exprimées.
En fait, je dirais que la pleine conscience... Non, c'est faux. D'abord détacher tous les éléments, les éléments du monde qui t'entoure, les voir un par un dans les détails, et ensuite... En reconstituer une image globale, il y a une sorte de conscience élargie. Quand tu es en état de pleine conscience, tu entends plus de sons, ton champ de vision porte plus loin. Alors c'est pas que tu commences à avoir des pouvoirs surnaturels, hein. C'est juste que en fait, c'est ton attention.
Tu me rassures.
Ton attention qui se défocalise. Si tu veux, en général, on a quand même très tendance à avoir à regarder sur tout ce qu'il y a en face de nous et à pas trop regarder ce qu'il y a au bord de notre champ de vision. Et en fait, quand tu te places en état de pleine conscience, tu arrives à te concentrer à la fois sur ce qu'il y a en face de toi et ce qu'il y a sur les côtés. Pleine conscience, c'est on détache d'abord chaque élément et ensuite on les réunit dans une espèce de toile à 360 degrés, quoi. Enfin, pas 360 degrés, mais un bon 180 degrés, quoi. C'est la réalité comme écran plasma à 180 degrés, comme amphithéâtre un petit peu quoi. Et l'expérience du désordre, c'est on fait la même chose, mais on mélange tout. Et on fait, en fait, on magmatise la réalité. Je suis peut-être clair comme de la boue.
Je ne sais pas si tu es clair ou pas clair, mais ça me fait beaucoup penser à ma pratique de l'improvisation en jeu de rôle, en opposant un petit peu une pratique qui serait de me faire une image claire de la situation et de la décrire aux joueurs en fonction de ce qu'ils vont explorer et en développant certains aspects à certains moments, par opposition à un état dans lequel cette image elle n'est pas nécessairement claire et où elle ne devient claire qu'au moment où je focalise l'attention sur quelque chose et que le reste est effectivement une espèce de magma mélangé et que finalement n'importe quoi peut surgir de ce magma au moment où on va le définir.
Alors ça, c'est quelque part, tu nous renvoies à la notion de flou et à la notion de réification.
Oui, tout à fait. Ouais.
Comment une aventure de jeu de rôle, c'est un univers de logique floue, pour faire simple. C'est une sorte de théorie du chaos ambulante. Hein, la réification, quelque part, c'est un moment de pleine conscience, c'est un moment où tu vas t'intéresser à un détail et tu vas vouloir en être plus conscient. Alors c'est vrai que dans le monde réel, bah, c'est juste regarder plus. En réification, c'est pas regarder plus, c'est demander à voir plus. Quoi. Mais il y a quoi dans cette auberge? Mais attends, il ressemble à quoi vraiment ce figurant? Et cette action de zoom, des zooms, c'est là où en fait on a vraiment ce qui est intéressant, c'est une notion de perception qui est dynamique. Et il y a vraiment une notion de volonté dans cette perception, quoi. Et que ouais, que c'est vraiment c'est pas du tout une perception qui est passive, quoi.
Ouais. Oui, mais si tu veux, je le rapprochais de cette expérience du désordre parce que je distingue. En fait, si j'essaye de clarifier ma distinction, j'ai la posture dans laquelle je vais effectivement porter mon attention pour réifier, pour créer au fur et à mesure, et j'ai la deuxième posture qui est de laisser naître. Comme je lâche prise, je laisse naître instinctivement, si tu veux, les choses elles-mêmes.
Ah là, ce que tu dis, c'est génial. Tu mets un mot sur un truc je pense qu'on éprouve tous en jeu de rôle. C'est effectivement, on fait du Ravenloft, horreur gothique et tout machin, et le MJ commence à te dire, vous rentrez dans le château cathédrale du vampire. Et il en dit pas plus. Mais en fait, t'es en train de te faire ton film.
Absolument.
Et là, c'est un moment qui est génial, parce que quelque part, ça se passe de mots. Bon, il y a le truc, vous rentrez dans le bar que vous connaissez, c'est un peu différent, parce qu'en fait, là, on imagine, parce qu'on connaît déjà l'endroit. Et le truc, vous entrez dans le château, dans le château cathédrale du vampire, là, on est en train de se faire un trip, quoi. Le missile n'a pas besoin d'en rajouter plus. On est déjà parti, quoi.
Est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que c'est vraiment différent du fait d'explorer le bar qu'on connaît? Parce que finalement, on explore une fiction qu'on connaît parce qu'elle fait partie de notre culture commune.
Ouais, puis on explore aussi un truc qu'on t'imagine, quoi. Ouais. Et là, il y a un moment où tu es en plein trip, c'est-à-dire que quelque part, si le MJ l'en rajoutait, eh ben, il y aurait un risque de casser ton immersion.
Absolument.
T'as cassé mon immersion parce qu'en fait, t'as détaillé, t'as rajouté des détails, et du coup ça s'est mis à dissonner avec ce que moi j'imaginais.
Exactement, et moi c'est quelque chose que j'ai rencontré plusieurs fois en utilisant des photos en partie pour décrire des PNJ, et des joueurs m'ont reproché effectivement de leur figer l'image alors qu'eux étaient partis et de brider leur créativité de ce point de vue-là.
T'as le même phénomène quand t'as lu un roman, et puis après bah, tu vois le film.
Exactement.
Et ça te casse ton truc parce que tes personnages, ils avaient imaginé complètement différemment.
Et alors, il y a quelque chose d'aussi très intéressant dans ce phénomène, c'est que ça fonctionne à partir du moment où tu as une certaine harmonie, pour reprendre les termes qu'on a utilisés plus tôt dans le groupe. C'est-à-dire que quand les gens sont sur la même longueur d'onde, finalement, le fait de parler du château cathédrale du vampire, ça marche.
Oui, si on est sur un plan différent, en fait, on est sur l'illusion qu'on voit la même chose.
Absolument.
C'est cette idée de connivence, en fait. Évidemment qu'on voit des choses différentes. Et chacun se fait sa cathédrale vampire différente. Il y en a qui va avoir des grandes chauves-souris, des arcades. Peut-être que l'autre, il va imaginer une espèce de grand orgue et l'autre, il va plutôt voir des vitraux torturés, quoi. Mais il y a un moment où on se complaît dans cette illusion qu'effectivement, on a une vision commune. Et c'est pour ça, comment Olivier Carrera, il a cette théorie-là. Tu sais que le jeu de rôle, il a pu émerger qu'à partir de 1974, parce que c'est grosso modo l'émergence des cultures geeks à partir de la littérature SF, fantasy, enfin, à partir de grosso modo, il y a à peu près, on va dire, 40 ans de littérature SF, fantasy avant, qui amène ce référentiel commun qui fait que le jeu de rôle, en tout cas le jeu de rôle tel qu'il est apparu, c'est-à-dire dans des univers médiaux fantastiques, a été rendu possible parce qu'on a des référentiels communs, parce que si je disais un orc, les autres voyaient ce que c'était sans que j'aie besoin d'en dire plus, quoi. Quelque part, il aurait pu émerger, si on avait fait des jeux de rôle naturalistes à la Zola, il aurait peut-être pu émerger au 19e siècle. Parce qu'il y avait un référentiel commun qui rendait l'acte d'imaginaire de visualisation possible.
Tu vois, je pense que c'est quelque chose
de connivence, ouais, aussi, quoi.
Mm-hmm. C'est quelque chose que tu vas retrouver aussi dans le conte, par exemple. Enfin, je me permets un parallèle. En discutant avec une conteuse, Sophie, qui nous a d'ailleurs fait un conte dans les voies d'Altarine il y a un moment, elle me disait que quand elle allait raconter un conte, c'était pas du jeu de rôle parce que l'histoire, elle existait. Mais en revanche, elle se plaçait dans le conte et elle s'imaginait comme témoin du conte et elle racontait ce qu'elle avait vu dans ce cas-là. Et je pense que ça, c'est possible de conteur à conteur parce que tu as une espèce de culture commune de la même manière. Mmh. Et j'ajouterais une chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui cherchent à émuler des genres. Et je pense que le genre, de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose qui va permettre ce genre de synergie.
Même si, à mon sens, comme on est sur un média de l'émergence...
Bah bien sûr.
Il y a de l'émergence dans d'autres médias, mais le jeu de rôle, c'est vraiment le média de l'émergence reine. Émuler un genre narratif me paraît une chimère.
Alors, oui.
Dans un absolu. Tu peux tenter sur des relatifs, mais dans l'absolu, émuler un genre narratif, en fait, on fait toujours de la transfiction en jeu de rôle, quoi. Du transgenre, quoi.
ça revient finalement à ce que tu disais, ouais, quand tu parlais d'illusion.
Ouais.
Quand on parle d'un jeu qui te plonge dans un genre, tu es dans l'illusion que chacun voit ce genre et aborde ce genre de la même façon. Or, c'est pas forcément le cas, mais ça te donne un terrain commun.
Voilà, toujours notion d'information concordante.
C'est ça.
Alors, c'est con, j'ai eu une idée qui était super, puis elle m'a échappé.
Elle te reviendra peut-être.
Je vais arriver sur mon dernier point. Donc, j'avais parlé de notion de vigilance, et c'est presque hors sujet, mais ça me paraissait important d'en parler. On a pu parler, il y a podcast des voix d'Altari sur le contrat social, du fait que les contrats sociaux pouvaient assez régulièrement échouer à protéger les joueurs, surtout qu'il y a notamment certaines formes de contrats sociaux qui sont plus périlleuses que d'autres. Je pense par exemple au fameux jeu, ce que j'appelle le jeu en confiance, c'est qu'en fait quand on estime tacitement qu'on est tous entre adultes, qu'on se connaît bien et que du coup on arrivera à respecter les limites de chacun. Et il y a le jeu, ce que j'appelle le jeu sans contrat social, c'est qu'en fait on n'a aucune idée de si ça peut marcher ou pas. On joue sans rien prédéfinir. Et des fois, ces deux situations peuvent amener à des moments où y a un joueur qui va mettre en place des thèmes qui vont choquer une autre personne à la table. Et attention, hein, ça peut arriver avec des autres formes de contrat social. Hein. Même les voiles où les personnes définissent à l'avance certains thèmes qu'elles veulent éviter d'être abordés. Des fois, tu vas dire je veux pas de violence, et puis il y aura une situation de sexe à la table qui va te mettre à l'aise, et puis alors que tu avais omis de le préciser en début, quoi. Parce que tu vas être surpris, de toute façon, il y a l'émergence qui fait que c'est impossible de prévoir tous les cas de figure, tout ça. Donc c'est impossible d'avoir un contrat social qui en préparation de table qui te protège tout à fait. Alors il y a la renégociation du contrat social, la renégociation permanente. Le truc que je trouve le plus vertueux, c'est, on en a déjà parlé, c'est la carte X, fameuse carte qu'on met au milieu de la table. Si quelqu'un s'en saisit, ça veut dire que là on vient de passer un tabou et qu'il faut faire machine arrière. Et moi, ça m'amène à la notion de carte X personnelle qui existe dans ma tête depuis une heure. En fait, c'est le problème, c'est que Bah, si personne ne prévoit dans le contrat social l'existence d'une carte X, ça veut dire qu'on n'est pas protégé, quoi. Et en fait, la notion de carte X personnelle, c'est se dire, quoi qu'on ait dit avant de commencer à la table, quoi qu'on ait défini comme condition préalable, notamment sur les thèmes chocs, hein, mais ça peut être sur autre chose, hein, sur le rythme, sur l'infodump, sur le PVP, enfin voilà, ça fait, c'est pas uniquement sur des trucs liés à l'émotion. Hein. Eh bien, on se dit, moi j'ai une carte X, moi j'ai toujours le droit, je me donne toujours le droit à une carte X. Ça veut dire que je me donne le droit. Quand à un moment il y a quelque chose qui me sort de mon immersion parce que ça me blesse, parce que ça m'ennuie, parce que ça pète ma cohérence, de dire stop. Soit de dire stop, on fait une pause et on fait un rapide briefing avant de repartir avec les choses plus carrées, soit de dire non fermement à quelque chose, quoi. Donc ça peut être un non vraiment X en disant stop, voilà. Là, clairement, du coup, on arrête l'aventure. Enfin, ou en tout cas, par exemple, y a un personnage qui dit, bah écoute, mettons que j'ai vraiment des limites personnelles sur la compétition. Et qu'il y a un joueur qui dit, bah je te donne un coup de hache dans la tête. Eh bien, soit on peut dire stop. Voilà, stop, pas de PVP. Enfin, on fait pas ça, quoi. Ou alors, on peut l'amener en roleplay. C'est-à-dire en disant que, enfin, c'est roleplay hein, et méta en même temps, en disant d'une voix très ferme, c'est vraiment impossible qu'on puisse en arriver là. Ça paraît inenvisageable que tu puisses me donner un coup de hache. Alors, j'avais d'autres exemples en tête qui étaient un peu plus intégrables dans le méta, mais je les ai oubliés. Mais toujours cette notion, enfin, si, ça me renvoie à un autre truc, c'est cette notion d'intégrer le méta à l'aventure. Par exemple, l'infodump, le fameux bombardement d'informations. Là, récemment, je suis sur une campagne d'un jeu qui s'appelle Les Selles de Milvaux. On joue des alchimistes dans Milvaux. Alors, c'est un jeu dont je suis pas l'auteur. C'est Johan Calamé. Enfin, ça se trouve, il voulait pas que ça soit dit. Bon, voilà, c'est dit. Tant pis. Et en fait, il y a pas mal d'infodumps, d'informations sur la chimie à donner et tout, qui c'est un peu compliqué. Moi, je suis parti du principe que les personnages étaient des alchimistes au départ, mais ils étaient très érudits. Mais quand même, leur objet qui était atteint de la pierre philosophale, ils avaient encore beaucoup à apprendre là-dessus, et que vraiment les opérations alchimiques importantes, c'était seulement maintenant qu'ils allaient commencer à les acquérir, à acquérir les notions. Et dans leur convent, je leur ai calé un PNJ qui s'est occupé en fait de la transmission d'informations, et qu'il faisait dans l'aventure, quoi. Pareil, il y a les fameuses questions dans Apocalypse World. C'est. Mais explique-moi explique-moi pourquoi tu as rompu avec Brian alors que tu l'aimais. Eh bien, je trouve que c'est plus élégant de faire plutôt que ce soit le MJ qui pose ces questions, que ce soit un figurant qui pose les questions. Alors, quelque part, ça transforme le jeu, ça transforme le ressenti, ça transforme la réponse. Mais je trouve que c'est un mieux pour l'immersion, en fait. Donc, quand j'ai des questions à poser au personnage, j'essaye de le faire par le biais d'un figurant. Dans les jeux où j'ai envie de faciliter l'immersion par un effacement du méta. Hein.
Un des intérêts pour moi d'Apocalypse World, c'est justement de pouvoir sortir de la question du MJ ou du MC dans ce cas-là, qui est qu'est-ce que tu fais pour demander qu'est-ce que t'en penses, etc. Tu ne feras pas demander à un PNJ qu'est-ce que tu fais pour connaître la suite des actions du personnage.
Ah bah si, ça m'arrive de le faire.
Tu le fais comme ça aussi?
C'est-à-dire que le compagnon du personnage, lui dirait, ouais, t'as vu la situation dans laquelle on est, tu vas faire quoi maintenant? C'est quoi la prochaine étape? Et tu vois, tu joues le figurant qui est un peu suspendu aux lèvres du personnage et qui attend de voir, quoi.
Ok.
C'est comme le principe quand on fait un plan. Est-ce qu'on fait le plan en tant que joueur ou est-ce qu'on fait le plan en tant que personnage, quoi?
Oui, bien sûr. Mais alors, si tu veux faire passer le méta à l'intérieur du jeu, est-ce que ça va pas à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que le méta pouvait encourager l'immersion?
Bah là, du coup, c'est une question d'analyse. On est dans une pure question de game design. Déjà, première question, c'est est-ce qu'on recherche l'immersion? Est-ce que c'est
Oui.
toujours souhaitable? Je manque de réponse. Hein. C'est vrai que l'immersion, c'est quand même souvent vu comme un Graal, hein, une sorte de récompense suprême du jeu. Mais j'entends de temps en temps des voix qui s'élèvent pour dire, bah, moi, je peux passer une très bonne partie sans être immergé.
Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si c'est à l'encontre de l'immersion ou pas, mais Benoît Chérel, donc qui participe au podcast régulièrement, nous disait que quand il jouait, il ne voulait pas s'identifier au personnage, ou plutôt il voulait s'identifier au personnage comme tu t'identifies à un personnage de roman, dans le sens où quand il décrit ce que fait son personnage, il va dire il fait, il pense, il dit que, plutôt que dire je. Alors quand il est dans le dialogue, il va dire je, hein, mais quand il décrit ce que fait le personnage, il
C'est
dit
peut-être aussi.
il.
Ben, je me trompe peut-être, mais c'est pas. Soit c'est une fascination, soit c'est comment un jeu en bleed, mais avec un petit tampon de la troisième personne pour pas aller trop loin dans le bleed.
Je pense que ça ressemble peut-être plus à ça, d'après ce qu'il nous disait. C'était vraiment pour pas, enfin, que pour lui, il était très très important de ne jamais oublier que le personnage était un personnage et que le joueur était un joueur et que c'était des entités complètement séparées et que il y avait le joueur qui pilotait le personnage et qui pouvait effectivement s'identifier à lui comme tu t'identifies au personnage de roman, etc. Et donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est un frein à l'immersion au départ et donc que ce n'est pas l'immersion qui est recherchée. Mais quand je
Mais
reprends les immersions que
ça
tu
me
as
paraît
décrites,
valide pour la fascination, par
ouais,
exemple.
ben voilà, ça, y a de ça, ouais, tout à fait. Et quelque part,
Mais je rappelle que, tu vois, notamment le bleed, c'est comme une force d'immersion qui te pousse vers le, vers la, le, qui peut te pousser à quitter la partie. Et pour moi, le jeu moral, c'est vraiment une forme de jeu qui met sur la table la possibilité de devoir quitter la partie parce que le jeu devient insupportable. Parce que le jeu moral, c'est quand même un jeu qui joue avec les limites. Alors les limites de l'engagement. Je prends par exemple des jeux. Comment, des jeux où on joue des résistants. Assez souvent, ce sont des jeux moraux. On pourrait sans doute trouver des contre-exemples, mais mettons que je fasse une généralité. Et souvent, est mis en la balance le fait de est-ce que tu vas rester dans la résistance, sachant que soit que ça te met vachement en risque, des représailles, tout ça, et puis aussi ça te met aussi en risque de devoir faire des actions que moralement tu réprouves, quoi. Hein, on prend le jeu Lady Rossa de Macbeth. Hein. C'est un jeu où tu joues des membres des Brigades Rouges. Et en fait, c'est un jeu où tu joues une personne, tu joues une bonne personne qui se retrouve amenée à poser des bombes dans des bars et à tuer des innocents. Et donc, il y a dans tous ces jeux, en fait, tous ces jeux de résistance, où on joue des résistants ou des terroristes. Enfin, ça dépend du point de vue. Hein. Et il y a un moment où il y a vraiment la notion, non, mais là, je peux plus continuer à jouer. Enfin, mon personnage quitte la résistance, mais veut dire que du coup, moi, en tant que joueur, je quitte le jeu, quoi. Et c'est vraiment mis en tension, ça fait partie de la tension. Et des fois, pour rester dans le jeu, eh ben, on va essayer de s'écarter du bleed, de pas trop rentrer en bleed, parce que sinon, on sait qu'on va devoir quitter le jeu, quoi.
ou au contraire de rentrer dans l'identification peut-être à l'extrême en faisant ce que peuvent faire certains personnages de ce type-là quand ils ont ce genre d'action, c'est-à-dire déshumaniser leur cible de manière à diminuer l'impact émotionnel. Mais c'est le personnage qui fait ça,
Bien sûr, c'est
quelque
le
part.
personnage.
Ouais, c'est
Alors,
très intéressant tout ça.
je crois que. Ah, c'est con, il y a le petit truc que j'avais dans la tête et qui est parti complètement. Mais sinon, je pense que moi, en ce qui me concerne, j'ai fait le tour.
Ok.
N'y avait pas trop de game design dans ce podcast. C'était plutôt, j'irais poser des définitions et puis réfléchir à haute voix. Je laisse les joueurs, les MJ et les game designers en faire. On les laisse en faire ce qu'ils veulent de ces idées-là. J'ai pas forcément, tu vois, je suis pas venu. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Julien. Moi, je suis pas venu apporter des mécanismes et dire faites comme ci, faites comme ça. Mais c'était juste, on va dire, amener des réflexions plutôt,
Oui.
amener des questions plutôt qu'amener des réponses.
C'est ça, oui. Et puis amener une façon de parler de ce problème, parce que comme on l'a mentionné plusieurs fois, l'immersion, c'est un concept qui est quand même au départ assez flou. Et là, ne serait-ce que de proposer une grille d'analyse de l'immersion à travers quatre formes principales d'immersion en prenant en compte qu'elles peuvent se mélanger, qu'il y en a peut-être d'autres auxquelles on n'a pas pensé, mais
ouais, tout à fait.
Enfin, auxquelles tu n'as pas pensé, puisque ce sont tes concepts. Mais oui, oui, ça donne des armes, quoi. Ça donne des outils dont on pourrait se servir, parce que par exemple, je pourrais me dire comment je vais faire pour booster l'immersion tactique de mes personnages, comment je vais faire pour booster le flow de mes joueurs autour de la table, quoi.
Ça te permet déjà, au moins dans un premier temps, finalement, de te définir des objectifs.
Oui, tout à fait. Bah, je te remercie beaucoup. Je pense que...
Bah, je te remercie de m'avoir reçu, c'était un grand plaisir pour moi.
Et bah, si nos auditeurs ont des questions... des idées à te transmettre sur le sujet.
Ah bah, on sera ravis d'échanger, ouais, tout à fait.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Thomas.
Merci pour votre écoute.
Et à bientôt pour un nouveau podcast.